Nous recevons aujourd'hui Christian Grataloup. Il est né en 1951 à Lyon. Il est professeur des universités à Paris 7, Denis Diderot. Il est cofondateur de la revue Espace-Temps et dans la lignée de Fernand Braudel, il est spécialiste de géographie historique et plus précisément de modélisation géographique en géohistoire. Christian Grataloup, c'est à vous.
Alors, bonsoir à tous. Merci. Mais vous applaudissez peut-être un peu trop tôt. Je vais vous demander de me faire crédit quelques instants, parce que quand je vais vous préciser le thème de mon propos, j'ai peur que vous mettiez en doute le sérieux de l'UTLS. Jusqu'à présent, vous n'en aviez pas eu l'occasion. En effet, je vais vous parler de comment le monde a été construit. Donc, je vais parler en gros de toute l'histoire et du monde entier. Alors, ça peut vous sembler un peu excessif en 50 minutes. En fait, je vais surtout chercher à vous convaincre que mon sujet est beaucoup plus restreint qu'il en a l'air et qu'il met en jeu notre vision du monde. Et je vais beaucoup prononcer d'ailleurs cette expression de vision du monde, la façon dont on voit le monde. Ce que je vais plus précisément essayer d'analyser devant vous, c'est comment le monde est devenu le monde. Alors peut-être l'avez-vous entendu, j'ai mis une majuscule au mot « monde » lorsque j'ai utilisé pour la deuxième fois. Je l'utilise comme un toponyme, comme disent les géographes, c'est-à-dire un nom propre, un nom d'un territoire, d'un espace approprié, celui de l'humanité en l'occurrence, mais celui de l'humanité où les hommes sont en interrelation les uns avec les autres, et ça n'a pas toujours été le cas. S'il faut donner une date de fondation, c'est la fin du XVe siècle, ce que les Européens, non sans vision égocentrique, ont appelé les grandes découvertes. Mais il y a auparavant tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte dans un temps beaucoup plus long, ne serait-ce que la dispersion des hommes à la surface de la Terre. Donc mon sujet, c'est l'espace des hommes, c'est-à-dire le monde et non pas la Terre, non pas cette planète avec ses enveloppes, cette réalité naturelle dont les relations avec le monde des hommes nous importent, et c'est un mais qui, elle, a préexisté à l'humanité, mais qui n'est pas directement là ma préoccupation. Cette construction du monde est donc dans un temps très long, et même si aujourd'hui il y a une accélération extrêmement rapide, dont nous sommes tellement conscients que le mot « mondialisation » qui est dans notre titre. Le mot mondialisation est dans depuis le début des années 80 à peu près, même si ce mot est lui-même plus ancien. C'est devenu un petit peu un fatum, c'est devenu le thaumaturge ou au contraire le démon dont on se garde et qui serait porteur de tous les maux dans bien des discours contemporains. Alors, je voudrais replacer ça dans du temps très long, même si on va voir qu'il y a effectivement des éléments de nouveauté radicale. Je vais commencer par ces éléments de nouveauté radicale pour voir ensuite ce temps long, multiséculaire de construction du monde, et le replacer ensuite dans un héritage. Voilà, en gros, mes trois éléments successifs. Les éléments de nouveauté dans un premier point, en particulier le fait qu'il y ait des permanences et pas seulement des changements. Deuxièmement, le fait que ça se situe dans ce temps que les Européens ont construit et qui nous laisse une vision particulière du monde, que j'appellerais spécifique, c'est-à-dire unique, propre à un groupe d'hommes particulier, dans un territoire particulier qui a été l'Europe. Et cela s'inscrit dans des logiques de localisation, mon souci de géographe bien sûr, qui sont beaucoup plus longues encore et qui représentent des positions relatives des lieux qui aujourd'hui sont tout à fait vivants, revivent, ressurgissent dans la mondialisation contemporaine. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre qu'un géographe vous parle essentiellement de temps dans sa logique, mais en même temps ce sont des temps qui construisent des espaces et ces espaces n'ont de sens que dans ces moments précis, ces temporalités précises. Alors, je vais, dans le premier point, partir de notre situation actuelle et, entre autres, insister sur le fait que les choses ne changent pas tellement. On est dans un monde où il y a des nouveautés radicales, mais où il y a également beaucoup de permanence. Alors, ça peut paraître un paradoxe. Quand on parle de la mondialisation, on parle des changements. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces changements ne sont pas forcément là où on les attend le plus, c'est-à-dire dans des déplacements, dans des lieux qui sont supprimés ou des activités qui sont supprimées en un lieu. Quand on pense à la mondialisation, on pense souvent au terme de délocalisation, c'est-à-dire à quelque chose qui existe quelque part et qui est mis ailleurs. Une délocalisation suppose donc ailleurs une relocalisation. Et cela pourrait se traduire par une flèche sur une carte. Donc on le pense comme un déplacement, comme lorsqu'on va d'un lieu à un autre, lorsqu'on va, on change de domicile ou qu'on fait du tourisme. Bon, ces phénomènes, effectivement, sont importants et se font de plus en plus. Or, la multiplication de ces phénomènes ne modifie pas la plupart des localisations et au contraire, on a ce phénomène paradoxal que la plupart des localisations sont permanentes, ou en tout cas dures, et durent souvent depuis très longtemps. Alors, ça peut paraître curieux, et ce paradoxe, ce sera le premier point que je voudrais aborder, et essayer d'insister sur le fait que c'est une autre idée qu'on pourrait appeler l'échelle de la géographie, le fait que ce soit des niveaux, des paliers dans l'échelle qui bougent et que certains prennent plus d'importance que d'autres. Et c'est bien ça, quand on parle de mondialisation, ça veut dire que le niveau supérieur, celui du monde entier, celui de l'ensemble de l'humanité, prend de plus en plus de poids par rapport à des niveaux considérés comme inférieurs, et on est évidemment particulièrement sensible à ceux qui seraient menacés, les niveaux nationaux, en France en particulier. Et il est évident que je ne suis pas du tout ici un chantre de la mondialisation, pas plus d'ailleurs qu'un adversaire, la question n'est pas là ce soir. Alors, on est dans un monde où tout bouge de plus en plus vite. Tout bouge de plus en plus pour, sans rentrer dans des détails sur la mesure de la distance, mais pour se déplacer, pour déplacer des personnes, pour déplacer des marchandises, et surtout, bien sûr, on vient d'annoncer un grand nombre de sites Internet sur lesquels on peut presque rapidement, être immédiatement en rapport avec les conférences, les informations bougent encore plus vite. Tout cela bouge non seulement plus rapidement, mais à des coûts qui sont de moins en moins importants et avec des vitesses qui sont croissantes. On parle même d'ubiquité dans le monde contemporain où, pour les informations en tout cas, tout pourrait être partout. Or, il y a un fait qui est frappant, peut-être n'y avez-vous pas pensé, mais c'est vraiment un élément très spectaculaire, c'est que plus on peut bouger, je ne dirais pas moins les choses changent, du point de vue des localisations, mais les lieux essentiels restent les mêmes, et souvent ils étaient déjà les mêmes il y a très longtemps. Que ce soit les localisations des grandes villes dans le monde, il y a un siècle, deux siècles, et pour beaucoup d'entre elles, beaucoup plus. Que ce soit surtout, ce qui est le plus spectaculaire, ce sont les grandes masses de population. Si on prend un instant une carte de la répartition de la population dans le monde, elle n'est pas très nette, la répartition des hommes sur Terre, en pourcentage bien sûr, il n'y a pas, toujours eu 6 milliards d'hommes sur Terre, mais la répartition des grandes masses de population sur Terre était déjà la même il y a plusieurs millénaires. Et au début de notre ère, les grandes masses de l'Inde ou de la Chine, alors pour du pourtour du bassin méditerranéen, pas de la péninsule qui est au nord du bassin méditerranéen encore, enfin pas déjà plutôt, mais ces grandes masses de population étaient déjà présentes. Or, rien qu'en parlant de ce qui deviendra la Chine ou l'Inde, ce qui il y a deux millénaires l'était déjà d'ailleurs, eh bien, je parle déjà de plus de la moitié de l'humanité, pratiquement. Vous avez des ensembles qui sont toujours présents. Et ça peut paraître bizarre, plus on peut bouger, plus, effectivement, on va aux mêmes endroits. Alors, pour comprendre cela, et ça va introduire progressivement l'idée d'échelle, pour comprendre cela, faut bien se rendre compte que la mobilité favorise toujours ce que, dans notre jargon de géographe, on appelle la polarisation. C'est-à-dire le fait que des lieux, des points, des pôles, si vous préférez, vont concentrer les différents flux, les différents va-et-vient, et ici, on est dans un pôle du savoir, de ce fait. Alors, ces mouvements de concentration, évidemment, sont d'autant plus facilités que les mouvements sont facilités. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer, qu'on peut aller d'un point à un autre avec de plus en plus de facilité. La disparition des diligences a fait disparaître les relais de poste, qui étaient toutes les sept lieues, comme les bottes. Donc, pour prendre un exemple qui n'est pas directement de la mondialisation, mais qu'on connaît tous, l'urbanisation, le passage de la campagne à la ville pour la grande majorité de la population, est tout à fait concomitante de la généralisation de l'automobile. Or, l'automobile a bien permis un étalement des villes, mais là, c'est à une autre échelle, c'est une échelle urbaine, où le centre s'est moins concentré, et au contraire, la ville s'est un peu plus étalée. Mais pour l'idée générale d'un territoire plus large, les campagnes se sont plutôt vidées, et les villes se sont plutôt, au contraire, ont rassemblé plus de population, grâce à cette plus grande mobilité. Mais vous voyez que, par là, j'introduis déjà l'idée qu'il y a deux niveaux, c'est-à-dire que ce qui est de la mobilité à une échelle plus grande, de la campagne vers la ville, devient au contraire un facteur d'étalement à une échelle plus restreinte à l'intérieur de la ville. Alors aujourd'hui, on voit bien que tous les discours sur le télétravail, sur les nouvelles mobilités, sur ce qu'on appelle souvent les nouveaux nomadismes, ce sont des phénomènes qui finalement ne modifient pas tant que ça les localisations. Les grandes villes, et en particulier les grandes villes mondiales, dont Jérôme Monnet parlera d'ailleurs, ce sont toujours les mêmes, pratiquement, surtout si on les prend en nombre de richesses, en quantité d'activités. Les lieux qui sont ces lieux du monde, les capitales du monde, les points centraux où se concentrent les facteurs d'activité, l'étaient souvent déjà, non seulement il y a un siècle, mais bien il y a bien longtemps. Alors, il y a bien mobilité, il y a bien un changement, mais ce changement est, si vous me permettez cette image, plus vertical qu'horizontal. C'est plus vertical parce que c'est plus dans le jeu de l'échelle, c'est entre les niveaux des territoires qui se construisent et qui sont plus ou moins durs que le phénomène, que les changements importants existent, et en particulier que le niveau mondial prend de plus en plus d'importance. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur cette idée de jeu des niveaux, de cette échelle géographique, parce qu'il met en jeu des contradictions entre les niveaux, des rivalités, des complicités qui ne sont pas très simples. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on perçoit très bien, et entre autres pour une raison dont nous, les géographes, nous sommes malheureusement responsables, c'est que c'est mal cartographiable. Un déplacement sur une carte, c'est facile, on trace une flèche, et j'en ferai tout à l'heure en vous montrant l'histoire du sucre. Mais vous avez, lorsqu'il s'agit de montrer quel est le niveau pertinent, c'est pas facile sur une même carte de montrer quel est, si c'est des niveaux plus petits ou des niveaux plus grands qui sont les éléments importants. Or, on a des jeux de complicité. Pour prendre une échelle qu'on connaît bien, l'échelle administrative française, qui se situe dans une tradition de centralisation très forte, où le niveau national, l'État, est le plus important, eh bien, l'autre niveau qui va être un peu complice, si vous voulez, qui va s'associer à ce niveau, qu'on va tolérer par le niveau national, c'est le niveau le plus éloigné, le moins concurrent, c'est le niveau communal. Et qui, en même temps, c'est un niveau fractionné. C'est-à-dire que sur l'aspect horizontal, ce que j'appelle le puzzle, ce qui, dans le monde, va être l'international, ce qu'analyse la géopolitique, eh bien, le puzzle communal va être des petites communes extrêmement fractionnées en France, très nombreuses, mais en même temps, ce sont l'ensemble des budgets communaux, c'est le second type, le second niveau de budget public en France, après le niveau national, parce que c'est celui qui est le moins concurrent de ce niveau national. Donc, vous avez une complicité entre deux niveaux, et après seulement viennent les budgets départementaux et enfin régionaux. Donc, ça ne serait pas du tout la même chose en Allemagne, si on prend cette hiérarchie. Eh bien, dans le monde, dans la construction du monde, on a aussi des jeux de niveaux que l'on va mettre en jeu. Par exemple, le monde, dans la mesure où il va franchir, il va, je dirais, transcender des niveaux qui lui sont inférieurs, mais j'aime pas trop cette image d'emboîtement, et va être tout à fait en relation avec le développement de certains lieux liés à ces facilités de communication que j'évoquais tout à l'heure. Le développement de quelques très grandes villes qui concentrent des polarisations mondiales dans le domaine boursier, j'y reviendrai en conclusion, c'est tout à fait net. On a ce que, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est un peu dans cette filiation, le géographe Olivier Dollfuss appelle l'archipel mégalopolitain mondial, c'est-à-dire un réseau de villes, un réseau de très très grandes villes mondiales qui polarise l'essentiel des décisions. Un des éléments clés de ces jeux de niveau dans le monde contemporain, c'est ce qu'on appelle la régionalisation. Alors, non pas au sens de sous-ensemble des nations, mais de grandes régions du monde, de macro-régions, qui se constituent et dont la construction européenne est sans doute l'archétype. Ces constructions de grandes régions se comprennent en grande partie par rapport à ce niveau mondial. Et je vais en donner un exemple dans un instant à propos de l'agriculture. La construction de l'Union européenne, mais aussi de l'ALENA, du Mercosur ou Mercosul, de l'ASEAN, etc., il y en a de moindre importance, ces ensembles régionaux, ils sont de plus en plus lourds, ils s'indurent de plus en plus, justement souvent pour tenir le monde à distance et en même temps peser sur ce niveau mondial. Et c'est entre ces grands... J'ose pas employer le terme de bloc, car il est connoté géopolitiquement. Mais c'est entre ces grands ensembles, c'est entre ces macro-régions que se joue l'essentiel des grandes décisions, que ce soit la direction du FMI ou les négociations internationales classiquement. Alors, j'ai dit que j'allais prendre pour bien illustrer cette pertinence ou cette non-pertinence actuelle du niveau mondial. Je vais tenter de répondre à une question qui peut paraître un peu absurde. L'agriculture mondiale existe-t-elle ? ça peut paraître bizarre, il y a de l'agriculture dans le monde, et il y en a depuis le néolithique. Or, c'est pas évident qu'elle soit franchement mondiale. C'est-à-dire que les prix, les logiques de localisation s'expliquent d'abord et avant tout par des répartitions au niveau mondial. En effet, une bonne partie des agricultures de pays tempérés et riches s'explique au niveau des ensembles de l'Union européenne, des États-Unis, du Japon, pour des raisons qui sont internes à ces régions du monde. C'est bien connu pour l'Union européenne, hein, où les marathons agricoles successifs déterminent des prix qui, à leur tour, déterminent les localisations, la carte, si vous préférez, à l'intérieur de l'Union européenne. Ça serait vrai pour les États-Unis. Les raisons sont souvent liées à des compromis politiques, à des relations entre des groupes sociaux, à l'avantage que l'on donne à tel ou tel groupe, agriculteur en particulier, mais aussi à des préoccupations qui sont identitaires, comme celle de la préservation de paysages particuliers ou même d'un produit au goût particulier. Je pense au Japon, dont le riz, les Japonais qui sont très attachés à leur propre goût de leur riz, à eux, et pas à celui qu'on importe qui n'est pas bon, tiennent effectivement au maintien d'un système qui permet de défendre, alors qu'ils en sont de très gros consommateurs, bien sûr, de défendre la production à un coût faramineux de leur propre riz. Mais c'est aussi celui du paysage des rizières, très imbriqué dans la ville, qui est un paysage qui ne veut pas le voir détruire, parce que c'est leur identité propre. Par là même, ça suppose d'en avoir les moyens de mener ce type de politique, et donc de dépenser, que ce soit dans l'Union européenne par la consommation, ou bien par diverses formes de subventions au Japon, aux États-Unis, pour avoir ces productions agricoles particulières. Ce qui veut dire que les productions de blé, essentiellement à partir des États-Unis, de produits laitiers, pour prendre l'exemple européen, ne sont pas déterminées par des considérations d'ordre mondial, mais par des considérations intérieures, et c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que ce sont, pour les cours mondiaux du blé, ce qui se passe à l'intérieur de l'espace états-unien qui est déterminant, ou pour ce qui se passe pour les produits agricoles, le lait et le beurre en particulier, dont nous avions des montagnes et des fleuves, si vous vous souvenez. Eh bien, ces produits, les cours mondiaux qui existent pour ces produits sont largement déterminés par les prix de restitution de l'Union européenne. Alors, mon objectif n'est pas de rentrer dans ces mécanismes-là, mais simplement d'évoquer l'idée que ce qui se passe au niveau mondial est déterminé par des sous-ensembles qui ont des raisons internes, qui ne sont pas les raisons mondiales. Même si on va un peu aller plus loin, ces prix mondiaux, qui sont de fait subventionnés pour des raisons intérieures, un peu cassés, si vous voulez, dans une certaine mesure, eh bien, vont influencer des agricultures ailleurs, en particulier dans des pays qui, eux, n'ont pas les moyens de mener des politiques agricoles coûteuses. Et à ce moment-là, peut-être pas déstructurés, c'est un objet de polémique dans lequel je ne veux pas rentrer, mais fortement modifier les agricultures de ces pays-là et leur capacité éventuelle d'intervenir sur les marchés mondiaux. Inversement, certaines productions de pays plus pauvres, souvent sous les tropiques, on va y revenir, sont déterminées, elles, par des cours mondiaux, et depuis fort longtemps d'ailleurs. Le sucre de canne, le café, le cacao, le thé, enfin tous ces exemples que je reprendrai dans la deuxième partie, sont des éléments qui sont déterminés, eux, par des cours mondiaux qui vont influencer la production à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du Brésil ou de la Malaisie pour tel ou tel produit. Donc, vous voyez, pour répondre à ma question sur l'agriculture mondiale existe-t-elle, c'est oui et non. Oui pour certains produits, non pour d'autres. Et vous avez ce jeu d'échelle qui est un jeu de force, hein, qui est un enjeu social extrêmement fort, avec des manifestations, des contestations, et qui signifie que la mondialisation n'est pas toujours là où on le pense, hein, et que ce n'est pas toujours facile de bien analyser ces différents niveaux. Ce qui veut dire que quand on parle de mobilité géographique, c'est beaucoup moins celle des lieux précis que le niveau où joue tel ou tel lieu qui est important aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est utile de voir comment on a des rejeux, on a des héritages qui sont plus ou moins forts pour comprendre ces types de localisation. Et c'est pour ça que dans les deux parties suivantes, je vais m'attaquer plus largement du temps long et comprendre cette genèse du monde, puisque je vous avais dit en introduction qu'il n'avait pas toujours existé. Alors, mon deuxième point, qui sera plus long que le premier, va se décomposer en trois grands objectifs sur la construction du monde. En effet, s'il fallait dater la naissance, la toute première Genèse, mais c'était imperceptible quasiment au départ, je dirais que c'est la fin du XVe siècle, hein, avec les nouvelles routes que les Européens vont tracer, et surtout vont garder, parce qu'ils auraient pu les tracer, et, comme les Chinois ont fait quelques décennies auparavant, au début du XVe siècle, où ils ont été jusqu'au Mozambique, mais ils n'ont pas gardé, ils ne se sont pas accrochés à ces routes-là. Eh bien, les routes que les Européens tracent et vont développer progressivement, ce sont cette brève toile, ce petit net de l'époque, qui va progressivement créer le niveau mondial, de manière très imperceptible au départ, puis progressivement, surtout au XIXe siècle, d'une manière beaucoup plus lourde et massive. Alors, cette construction du monde, elle a au départ une raison simple, c'est que les Européens recherchent des produits, et recherchent à bon coût, de manière le plus accessible possible, des produits qu'ils ne peuvent pas produire chez eux. Et entre autres parce que l'Europe, c'est tempéré, voire tempéré froid. Donc il y a un rapport avec ce qu'on appelle, pour aller vite, des zones climatiques, même si ça pourrait être l'objet d'une discussion, qui est que l'Europe est une civilisation qui se trouve essentiellement dans des régions tempérées où elle n'a pas directement accès à ce que les Européens appellent les épices. Mais en s'intéressant plus particulièrement aux régions qui ne lui ressemblent pas, les Européens vont le faire aussi, ça sera mon deuxième aspect, en fonction de la distance à l'Europe. Il y a des choses qui sont très près, où on peut aller en quelques semaines et en revenir. Et puis d'autres qui sont vraiment très loin et on est beaucoup moins sûr de revenir. Et ça va jouer un rôle dans l'héritage du monde que l'on a aujourd'hui. Et troisième point auquel vous pensez le moins, je dirais que c'est souvent porté par un message subliminal, eh bien, l'Europe a reconstruit l'image du monde, à commencer par celle des cartes, comme celle que j'avais mise, qui vous a sans doute pas surprise tout à l'heure, mais aussi celle des noms du monde, des noms des continents, des océans, enfin, je me limiterai aux continents, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, dans la construction des noms du monde qui nous amène à penser le monde, les parties du monde, les sous-ensembles du monde aujourd'hui. Donc, premier aspect, l'Europe n'est pas allée. Les Européens se jettent à la mer, se tournent vers l'Ouest, ce qui est d'ailleurs un paradoxe parce qu'on est vent d'Ouest en Europe, hein, donc ce n'était pas facile. Il fallait partir très au nord, comme avaient fait les Vikings, mais il faisait plus froid au XVe siècle qu'à l'époque des explorations vikings des 9e et 10e, 12e siècle. Donc, ce n'était plus vraiment possible. Et donc, par le sud, ce n'est pas évident. Il faut construire ces routes, il faut les découvrir, les discerner, les baliser, les cartographier. Les Européens se lancent donc dans cette aventure pour chercher tout simplement au départ une nouvelle route dans le faisceau de routes de l'Ancien Monde qu'on appelle route de la soie ou route des épices, si elles sont terrestres ou maritimes, et qui permettait d'aller d'un bout à l'autre de, je dirais, si vous me permettez ce jargon, l'Eurasafrique, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie, cet ensemble de terres soudées où sont l'essentiel des populations. Alors, ce faisceau de routes, et les Européens cherchent simplement une variante pour éviter des intermédiaires coûteux, pour essayer de gagner à aller plus vite. Et comme ils pensent que l'Afrique, c'est pas très grand, on va peut-être pouvoir la contourner, ou bien que le globe est plus petit, donc on va pouvoir tourner autour, pour prendre les deux directions essentielles. Alors, ils cherchent ce qu'ils ne produisent pas chez eux. Quelquefois, ils peuvent l'acclimater. Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, au XVe siècle, pour la soie, c'est pour aller vite, enfin, pour le mûrier et le ver à soie. Mais ils le cherchent pour des produits qui sont d'ailleurs surtout des plantes et qui ne poussent que dans des régions plus chaudes, le poivre, enfin tout ce que les Européens appellent les épices. Et cela va avoir une très grande importance parce que ça va créer quelque chose dans le monde qui ne préexistait pas à cette quête et qui est une différenciation à l'intérieur du monde qui est tout à fait existante aujourd'hui sous le terme de pays riches et de pays pauvres. Alors, plutôt que de me lancer dans une analyse très générale, je voudrais vous raconter une petite histoire qui est celle du sucre, celle de la diffusion du sucre. Alors, la canne à sucre, c'est une grande graminée herbacée qui a cette caractéristique de concentrer beaucoup de saccharose dans sa canne. Et on ne connaît pas très bien l'origine, ça peut être la Chine du Sud, l'Insulinde. En tout cas, c'est au moins au 5e siècle avant Jésus-Christ que la canne à sucre est domestiquée, dont on a acquis les techniques de production, et entre autres déjà la plantation, en Inde. Lorsque Alexandre le Grand va jusqu'aux portes de l'Inde, nous dit Néarque, celui qui est revenu par bateau, on a découvert une canne, un roseau plutôt, on dit dans le texte grec, un roseau qui produit du miel sans abeilles. Donc, c'est la canne à sucre, bien sûr. Et donc, les Grecs puis les Romains vont importer du sucre du monde indien. Les Arabes vont le diffuser vers l'ouest. Les croisés vont le connaître et là, donner le goût du sucre aux Européens qui vont tenter de le faire pousser. Mais là, il y a un problème, c'est que la canne à sucre nécessite à peu près 18 mois de cycle de vie, ne supporte pas l'hiver, donc ne pousse pas en Europe. Ou en tout cas, les Européens le font pousser dans les marges qu'ils contrôlent, Chypre, Crète, l'Italie du Sud, et puis surtout là où d'ailleurs les royaumes arabo-andalous l'avaient introduit, en Andalousie. Mais c'est quand même très peu de choses. Ils acquièrent le goût du sucre, mais ils n'ont pas la possibilité de le produire. Alors ils vont le chercher, et les îles atlantiques, Madère, Açores, Canaries surtout, vont jouer un grand rôle dans cette histoire. De même d'ailleurs que c'est là qu'on apprend à dominer les vents qui permettront de circuler vers le sud et de revenir par le nord dans l'Atlantique. Dès 1500, donc Colomb est à peine fait deux voyages, dès 1500, le sucre va passer en Amérique, et l'esclavage avec, d'ailleurs. Donc, vous avez les plantations qui vont se développer d'abord dans le nord-est brésilien, au XVIe siècle, parce que c'est là où c'est le plus près de l'Europe. Puis, comme ce n'est pas très pratique pour contrôler les populations serviles, ensuite, on utilisera les îles à sucre au XVIIe, puis au XVIIIe, et Cuba, c'est même au XIXe siècle, du sud-ouest vers le nord, dans les Antilles. En même temps, dès le XVIIIe, ça va petit à petit se répandre dans les relais, comme les Mascareignes, enfin l'île Bourbon, l'île de Naples, c'est Paul et Virginie que je vous raconte. Et puis, finalement, au XIXe, ce sera les îles du Pacifique. Toute cette région, cette ceinture tropicale, va être gagnée par la plantation, par la culture de canne à sucre. Alors, je vous parle du sucre, j'aurais pu vous parler du thé, du café, du cacao. En effet, lorsque les Européens ont acquis le goût du sucre au XVIe siècle, ils ont inventé le dessert. Et vous voyez qu'un des aspects de cette construction du monde, ça modifie aussi leur propre vie, qui, à leur tour, ils vont répandre, hein, les types d'organisation des repas. Autre exemple, d'ailleurs, dans l'organisation des repas, c'est au XVIIIe siècle l'invention du petit déjeuner. On voit bien, d'ailleurs, dans le mot même, hein, de petit déjeuner, que c'est une création relativement récente. Et le petit déjeuner à base de stimulants qui sont des plantes issues de plantes tropicales, le chocolat, le café, le thé. Si vous mettez du sucre dedans demain matin, voyez, vous penserez que vous êtes dans le monde créé par les Européens. Eh bien, cette création se fait à partir de produits que les Européens vont apprendre et faire pousser, vont diffuser dans le monde, pour eux-mêmes, bien sûr, puis ensuite pour les clones de l'Europe qui vont se répandre dans les régions tempérées, nord des États-Unis, Canada, etc. Et ces ensembles vont profondément modifier les régions intertropicales parce que, en même temps que les Européens diffusent leurs plantations, leurs types de culture, les commercialisations, achètent des produits, c'est ce qu'on appelle une économie extravertie, une société qui est créée pour l'Europe, pour des besoins de l'Europe, ou qui est transformée en fonction de ses besoins. D'où un point, pour aller vite, très important, c'est qu'on comprend mieux, si je vais très vite, une question très agaçante, qui en général on cherche à éviter dans la plupart des éléments de géographie, qui est le fait que dans la zone intertropicale, dans les régions chaudes, vous voyez celles que je vais marquer ici d'un trait bleu, il y a une superposition très forte, très nette au milieu du XXe siècle avec les régions les plus sous-développées. J'ai pris une classification, celle d'Yves Lacoste, qui était la classification de Lacoste, c'est celle-ci. Sur le milieu intertropical, il y a une forte superposition avec les régions chaudes. Il y a un rapport assez étroit avec cette genèse, cette saisie par les Européens des terres qui n'étaient pas les leurs, comme des ensembles complémentaires des besoins des Européens, mais en même temps dominés. Alors remarquez que le monde pénètre en même temps en Europe, par là même. Ce monde que les Européens construisent, il pénètre. Juste d'ailleurs une anecdote pour l'illustrer, je vous parlais du petit déjeuner il y a un instant, pensez au petit déjeuner traditionnel des Européens, au type de boisson. Les Italiens, qui étaient ceux de la route du monde arabe, hein, on est dans les vieilles routes de l'ancien monde, eh bien, ce sont ceux qui ont importé le café, qui le reste des grands buveurs. Le thé, ce sont les Hollandais et les Anglais qui maîtrisaient les routes d'Extrême-Orient. Le chocolat, qui est une plante mexicaine, c'est un rare mot aztèque de notre vocabulaire, le chocolat, Et c'était le petit déjeuner typique, chocolaté con churros, le petit déjeuner des Ibériques. Donc vous avez même dans la géographie intérieure de l'Europe des éléments qui sont liés à cette construction lente mais progressive du monde. Alors ces éléments doivent tenir compte également de la distance à l'Europe. Il y a des lieux où l'Europe, les lieux qui sont vraiment très très près de l'Europe. Pour aller vite, c'est mon deuxième point. Pour aller vite, je dirais que c'est l'Atlantique. Tout ce qui est autour de l'Atlantique, les Européens très vite vont le maîtriser, parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps et ça ne prend pas beaucoup de risques. Au XVIIe siècle, l'historien Chaunu a fait ce genre de calcul. Pour faire un aller-retour entre l'Europe et les Antilles, il faut 50-60 jours. Et on a 4 chances sur 5 de revenir. Ça vous semble peut-être pas beaucoup, mais c'était énorme par rapport à l'époque. Dès qu'il faut aller plus loin, dans l'océan Indien et puis en Extrême-Orient, là, c'est des années. Il faut attendre les moussons dans un sens, dans l'autre, et puis des risques beaucoup plus considérables. L'une des raisons étant d'ailleurs que les Européens sont seuls dans l'Atlantique. Ils se font concurrence entre eux, mais ils n'ont pas d'autres sociétés lourdes, hein, concurrentes, avec leurs propres marines qui peuvent les combattre. Donc, ce qui est près de l'Europe va être mondialisé et transformé par l'Europe beaucoup plus tôt, que ce soit par projection de l'Europe qui envoie d'abord ses laissés pour compte ou ses minorités religieuses, les Pilgrim Fathers qui vont fonder les colonies américaines, ensuite ses excédents démographiques au nord des États-Unis, au Canada, mais aussi en Argentine, etc. Mais beaucoup plus loin en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup moins important. Mais aussi cette saisie économique, hein, ces lieux qui sont créés pour l'Europe, ces extraversions que j'ai évoquées, c'est beaucoup plus important quand c'est près ou loin de l'Europe. Un exemple qui est un peu l'inverse des Antilles, de ce point de vue-là, c'est le Japon. Lorsque les Européens arrivent au milieu du XVIe siècle, les Japonais s'y intéressent, n'ont pas trop de mal à intégrer d'ailleurs leurs techniques économiques, mais ils vont très vite rejeter les Européens et les tenir à distance, jusque à ce que la révolution industrielle permette, d'ailleurs plutôt des États-Unis que des Européens, à forcer les portes du Japon. Mais pendant 3 siècles, le Japon sera fermé aux Européens. Les Européens, finalement, s'en font une raison, parce que le Japon, c'est d'abord loin de l'Europe, très très loin, pratiquement 4-5 ans l'aller-retour. Et puis, c'est aussi tempéré, donc largement. Donc, ça n'intéresse pas beaucoup les Européens. Ce qui fait que vous avez des prises en charge de cette construction du monde qui créent des inégalités en fonction de la distance et en fonction des différences ou des ressemblances qu'il peut y avoir par rapport à l'Europe. Alors, l'un des éléments un peu complexes, mais j'en aurai pas le temps d'en parler, c'est le fait que l'Europe crée des relais. On le verra peut-être rapidement en conclusion. Alors, un point qui me semble très important, sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que les Européens vont construire une image du monde. Vous connaissez peut-être cette carte que les Australiens répandent un peu partout, et qui n'est pas à l'envers. C'est bien là-dessus que je vais insister. Elle est orientée, terme sur lequel, un peu bizarre peut-être, ça veut dire tourner vers l'est, orientée. Elle est orientée au sud, alors bien sûr on a l'habitude de la voir ainsi, mais le texte est tout à fait essentiel et nos Australiens nous disent bien qu'ils en ont assez d'être là-bas en bas, en plus en bas à droite. Ils se mettent au centre et en haut, ce que l'Europe a fait. Et le fait que nos cartes soient généralement, on peut en prendre des tas d'exemples, hein, mais le fait que nos cartes soient généralement, quel que soit le mode de projection, hein, et ce n'est pas sur la taille, la projection que je vais intervenir ce soir, ça importe peu. Donc le fait que les Européens se soient mis au milieu, évidemment, reflète une subjectivité qui semble tout à fait normale. Et c'est là que passe ce message subliminal dont je vous parlais, c'est-à-dire le fait que, inconsciemment, en utilisant des cartes, on représente un monde plat. Alors, si on prend d'ailleurs un Mercator comme ça, c'est le plus net, un monde qui a 4 bords, qui correspondrait aux 4 pôles, mais en fait, deux seuls pôles ont des absolus, c'est le nord et le sud. Les points cardinaux est et ouest n'existent que relativement. Et cette position médiane a été symbolisée à la fois par le méridien de Greenwich et puis son inverse, qui est la ligne de changement de date. Donc, et qui étaient les bouts du monde. Eh bien, cette image, elle a été vraie. Le 19e siècle, le monde avec son M majuscule, le monde au 19e siècle, il est effectivement, si j'ose dire, plat. C'est-à-dire qu'il a bien des bouts, des extrêmes, et un cœur, un centre où se prennent l'essentiel des décisions, qui est l'Europe. Donc, on a un élément essentiel, et quels qu'en soient les modes de représentation, c'est pas si on tient compte de la sous-estimation des régions tropicales, on peut bien changer. Hein. Vous connaissez peut-être la projection de Peters, le journal L'Antenne 2 l'avait abondamment utilisé autrefois. Et vous avez là quelque chose qui ne change rien à mon propos de ce message subliminal. Alors effectivement, voir le monde autrement, c'est pas facile. Et ça pose des problèmes, et entre autres ici, où le nord est au centre et le sud représente la limite, hein, les bords, où l'est et l'ouest deviennent très très difficiles à poser relativement les uns par rapport aux autres, c'est effectivement une autre vision du monde, mais qui est inhabituelle. Et 95 à 98% des cartes relèvent des cartes que je vous ai montrées antérieurement, c'est-à-dire coupées dans le Pacifique, ou coupées ailleurs d'ailleurs. Hein, le problème, les États-Unis aiment bien mettre l'Amérique au milieu, ou les Chinois le 160e méridien est, mais ça ne change rien. Là, au fond, on a le même type de logique. Ce qui fait qu'on a, au bout du compte, de jeunes enfants qui répondent naïvement, le méridien de Greenwich, il est au milieu. Hein, de ce fait, ils ont tout à fait raison. Ils ont eu raison, en tout cas, à une époque. Alors, je voudrais enfin aller plus loin sur des subjectivités. Remarquez que cette subjectivité, vous voyez la première page d'un manuel, enfin, la partie sur la France d'un manuel, vous ne voyez peut-être pas, je vais l'agrandir un petit peu ici, il y a la situation de la France dans le monde, c'est le titre. Malheureusement, vous ne pouvez pas lire le texte, vous en ferez crédit. Ça explique très bien que la France est au centre du monde, au centre des terres émergées, comme les hommes sont terrestres, bon, ça, le problème est réglé. Il est même précisé, si vous regardez un petit peu ceux qui voient mieux peut-être, qu'il est dans la zone tempérée la plus favorable au développement de la civilisation. Alors, vous savez, on pense encore beaucoup ainsi. Donc, on a cette position en haut, parce qu'on écrit de haut en bas, et orientée en haut, c'est-à-dire l'Est est au haut, l'Est est le Nord, si vous préférez, ce que littéralement ça veut dire. Et à partir de là, les Européens ont effectivement découpé et construit le monde. Vous voyez, dans le manuel que je citais, on a les cinq parties du monde, les cinq continents, qui vous semblent certainement une idée peut-être un peu bonasse, un peu simplette, et en fait, qui est une projection de la pensée européenne. Ce ne sont pas des îles, les continents. N'ayant pas le temps, je ne vais pas trop l'analyser. Il n'y a aucune justification naturaliste en dehors de la coupure Amérique et Eurasie-Afrique. Mais Europe-Asie-Afrique, ça n'a aucune justification naturelle. Et pourtant, s'il y a une chose qu'on apprend à l'école, c'est bien ça. Eh bien, ce partage du monde en trois, il remonte à la vision médiévale qui était héritée de l'Antiquité. Voilà ce qu'on appelle une carte T d'en haut, c'est-à-dire celle-ci à d'Isidore de Séville, c'est du 11e siècle. Pardon. Cette vision du monde hérite de termes antiques qui étaient les rives de la Méditerranée. Le nord, on l'appelait l'Europe, l'est, on l'appelait l'Asie, et le sud, on l'appelait d'ailleurs la Libye plutôt que l'Afrique, mais enfin, peu importe. Et vous aviez ces trois directions. Et on ne cherchait pas à en faire des limites, ce n'était pas la question. Et puis, les hommes du Moyen-Âge construisent une vision du monde qui est centrée sur, au cœur, Jérusalem. Et puis, à l'est, vous allez voir pourquoi, si je vous en montre des versions plus... Je ne vais peut-être pas toutes vous les analyser, hein, une version un petit peu plus récente. Vous avez ici, à l'est, vous voyez, ce monsieur et cette dame tout nu avec le serpent, c'est le paradis terrestre. Il fallait bien, sur une carte, localiser sur la terre le paradis terrestre. Eh bien, il est à l'est, puisque vous savez, surtout si vous êtes admirateur d'Elia Kazan, qu'à l'est d'Éden, il n'y a rien. Donc, vous avez l'est qui est ici, d'où, dans notre vocabulaire, vous aurez peut-être appris quelque chose, si vous n'y avez pas pensé, que orienter, tourner vers l'est, c'est la direction du chevet de nos églises, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire tourner vers l'est, vers Jérusalem, et au-delà, vers le paradis terrestre. En même temps, vous avez une histoire, hein, ancien et nouveau monde, Nouveau Testament, pardon. Vous avez ici l'Europe, vous avez ici l'Afrique, et vous avez ici l'Asie, les îles de la Méditerranée. Ici, ce serait la mer Noire, ici, ce serait le Nil, hein, en gros. Vous avez cette coupure. Alors, ça peut devenir de plus en plus sophistiqué à la fin du Moyen-Âge. Celle qu'on appelle de la chronique de Saint-Denis. Vous avez non seulement le paradis terrestre qui est localisé ici, mais vous avez aussi Gog et Magog, parce qu'entre-temps, il y a eu les invasions mongoles. Donc, il faut aussi savoir d'où viendra l'Apocalypse. Alors, vous avez une vision eschatologique, mais c'est à partir de là qu'il y a les trois parties du monde que l'on va progressivement codifier. Alors, les choses se compliqueront parce qu'ensuite, on va rationaliser. En 1509, il faut inventer un nouveau mot, qui est Amérique. C'est le contexte de la querelle de Valladolid. Mais vous avez surtout un autre problème qui va être, quand on s'aperçoit que la mer Noire, ça ne marche pas, il faut couper entre l'Europe et l'Asie. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un coup de force géopolitique. En début du XVIIIe siècle, le Tatichev, le cartographe de Pierre le Grand, va pousser la limite, qu'on plaçait beaucoup plus à l'ouest, jusqu'à l'Oural. Parce que la politique de Pierre le Grand, c'est d'intégrer l'Europe au concert des nations européennes. Donc il s'agit de faire de la Russie un pays européen. Pour ça, il faut pousser le plus à l'est possible la limite entre l'Asie et l'Europe. Et l'Oural, bah, ça marche comme ça peut, mais enfin, bon, ça va être cette limite. Et puis, on a un dernier continent, celui qui a ce nom complètement absurde d'Océanie, hein, un continent qui s'appelle Océan. Enfin. Alors, tout simplement parce que pendant très très longtemps, et jusqu'au XVIIIe siècle, vous voyez une vision médiévale ici, on a cru que dans l'hémisphère nord, il y avait des terres qu'on connaissait, et dans l'hémisphère sud, il y avait un contrepoids. Puisque le nord est en haut, et qu'un continent, c'est des pierres par rapport à la mer, bah, il ne faut pas que ça bascule. Donc, déduction, il y a un continent plus lourd. Et on l'a cru pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, où on a pensé aux terres australes. Alors là, c'est une carte effectivement fort ancienne, mais je pourrais vous en montrer, alors je vais en sélectionner, j'en pensais en montrer beaucoup plus, mais vous voyez une carte d'Ortelius, un grand cartographe du XVIe siècle. Vous voyez cet énorme continent ici, cet continent antarctique, hein, qui comprend non seulement notre Antarctique, qu'il ne connaissait pas, mais l'Australie. Et c'est seulement quand on aura fait le tour de l'Australie au XVIIIe siècle qu'on se dira, non, ça ne marche pas. Mais comme en même temps, il y a eu Newton et qu'on voit la gravité autrement, ça ne pose plus de problème pour les savants, en tout cas, de cet équilibre du globe terrestre. Alors, dans le fourre-tout qu'on ne peut pas ranger dans les quatre parties du monde préexistantes, eh bien, on va créer, en 1812, l'idée d'Océanie. Voilà, donc vous voyez, le monde, c'est une vision européenne. Et aujourd'hui, rien n'est plus neutre apparemment que ces mots de continent. Et chaque fois qu'on cherche à les utiliser, ça ne colle pas. Je vous donne juste un petit exemple qui serait intéressant par ailleurs. C'est la répartition des sites du patrimoine... Oh, on ne voit rien du tout. Ce sont les sites du patrimoine mondial de l'humanité, qui sont d'ailleurs très, très européens. Eh bien, les parties, il y a quatre parties. Il y a l'Amérique, vous avez l'Afrique, mais qui comprend le monde arabe, hein, qui comprend le Proche-Orient. Remarquez que l'Europe comprend la Turquie et toute la Russie. Et puis, vous avez l'Asie, qui comprend d'ailleurs aussi l'Océanie. Là, on a un découpage en quatre parties fonctionnelles qui ne correspond pas du tout à cet héritage européen, parce qu'on a du mal à faire avec. Vous penserez, je n'ai pas le temps d'analyser, mais au sens de crise asiatique, ce que signifie l'adjectif asiatique cartographié quant à la crise. Alors, dernier point, et ce sera ma dernière partie, que je vais faire un peu à bride abattue. Eh bien, cette construction du monde par l'Europe, elle se fait avec des héritages qui sont beaucoup plus anciens. Je l'ai évoqué, ces routes de la soie et des épices qui préexistaient. Et entre autres, ça peut partir d'une question qui serait: pourquoi l'Europe, parmi les espaces de civilisation qui ont créé le monde? Pourquoi ce monde est européanisé, puisque pourquoi c'est finalement pas les Chinois, par exemple, mais pourquoi pas les Aztèques, qui ont créé le monde? Bien, d'abord, on peut s'intéresser, vous voyez, aux différents lieux où se sont passés des processus historiques. C'est une carte qui serait assez longue à analyser. J'ai cartographié, j'ai superposé toutes les cartes qui existaient dans un atlas historique. Je l'ai pris japonais pour éviter un peu trop de subjectivité. Vous avez cette écharpe énorme de lieux où se produisent des événements historiques tels que les Japonais le recensent. Et puis, il y a des parties, et le tout avant la création du monde. Vous avez tous ces lieux d'histoire, comme j'aime à dire, qui sont localisés et qui peuvent être l'objet d'une réflexion de géographe d'une manière bien particulière. Eh bien, vous voyez, sur cet axe, c'est l'extrême ouest qui va construire le monde et qui construit d'ailleurs la carte, maintenant vous n'êtes plus naïf, qui construit la carte sur laquelle sont portés ces différents lieux du monde. Eh bien, cela, ça se comprend d'abord en fonction, et je vais évoquer un temps beaucoup plus ancien, de la diffusion des hommes sur Terre. Vous voyez, j'ai mis un gros trait rouge. Cette carte représente plus la diffusion de l'espèce Homo, notre espèce, à la surface du globe. Plus c'est foncé, plus c'est ancien. Eh bien, en gros, bien sûr, on le sait que notre berceau est africain, mais l'ensemble de l'ancien monde, il y a plus d'un million d'années, où l'Homo erectus s'est répandu sur l'ensemble de l'ancien monde. Et inversement, il faut attendre la dernière glaciation, ça dure en gros 50 000 ans, pour que et vous voyez, là, la carte n'est pas bonne, il faudrait pouvoir passer par le détroit de Bering, pour que l'Amérique mais aussi l'Australie, l'Océanie, si vous préférez, donc les nouveaux mondes, soient occupés par des hommes. D'où d'ailleurs une chose très importante, il y a sur Terre des sociétés, mais il y a une seule espèce humaine. Et c'est sans doute lié à une diffusion très, très récente, et non pas par rapport à l'évolution biologique, bien sûr. Si ça avait été une diffusion il y a 1 million d'années, peut-être qu'il remontait des mers, peut-être que les choses auraient évolué différemment, comme pour les espèces végétales et animales en Australie, par exemple, ou en Amérique. Donc, vous avez, vous avez cette opposition entre anciens et nouveaux mondes, et les populations qui sont dans les nouveaux mondes sont très peu nombreuses au total. C'est donc bien sur cette partie centrale que va se passer des choses. Et là, en quelques minutes, je veux juste évoquer deux idées qui permettent de comprendre ces éléments. Sur ces lieux où on a de l'espèce humaine qui se répand, depuis éventuellement fort longtemps, eh bien, vous avez des lieux qui sont particulièrement centraux, où vont se passer des choses. Et en gros, c'est ce que les Européens appelleront, vu d'eux, le Proche-Orient, mais disons le croissant fertile, avec une position très centrale, où les carrefours de route sont particulièrement importants. Puis, au contraire, des régions où les choses vont être beaucoup plus lentes, où toutes les diffusions vont arriver plus tardivement, et où des choses, massivement, se passeront beaucoup plus tardivement. Mais inversement, on verra que ces routes qui permettent de faire véhiculer depuis des millénaires des richesses, des savoirs, des techniques qui permettent de faire passer tous les savoirs, eh bien, ces routes sont aussi celles des invasions. Ce qui fait que là où ça commence tôt, ça se détruit vite et de manière régulière. Et inversement, dans les positions les plus éloignées, vous avez des lieux où les accumulations de richesses, de savoirs sont tardives, lentes, mais beaucoup plus protégées. Pour aller un tout petit peu plus loin, deuxième élément, si on différencie les sociétés qui se construisent, en 2 minutes, ce sera très rapide, vous avez d'abord une première différence issue du néolithique entre des sociétés qui mettent plutôt le paquet sur les animaux, sur l'élevage, et qui sont très mobiles. Pour le géographe, c'est une autre société, c'est ce que les sédentaires dont nous sommes les héritiers appellent des nomades. Enfin, disons des éleveurs, ce serait un terme plus correct. Et je dirais que ce sont des sociétés à pattes, hein, des sociétés qui bougent considérablement, qui maîtrisent des distances très grandes, mais de faible densité, et qui, entre autres, n'ont pas beaucoup de villes et de lieux d'accumulation. Et d'autre part, des sociétés d'agriculteurs, qui sont des sociétés à racines, elles, au contraire, à plantes, et qui, au contraire, sont là où il y a la ville, où il y a la construction de l'État, où il va y avoir des types d'accumulation un peu différentes. Or, parmi ces sociétés d'agriculteurs, il y en a qui sont directement confrontées à cette concurrence radicale que sont ces sociétés d'éleveurs. Et dans ces sociétés, on a le plus souvent des constructions que, pour aller très vite, je vais appeler, mais je m'avais placé dans le patronage de Brodel, des empires-mondes, disons des empires, des constructions où le niveau politique de la société est le niveau le plus élevé, alors, où la société existe le plus souvent sous forme d'une grande construction politique indurée, parce qu'il faut tenir le coup face à des concurrences et à des menaces de mobilité externe, face au désert des Tartares, si vous préférez. La muraille de Chine et l'empire chinois derrière sa muraille en seraient quelque peu le symbole. Inversement, vous avez des sociétés qui ne sont pas placées dans ce type de disposition. Et Brodel, à la suite d'Immanuel Wallerstein, appelle ça des économies mondes. Je n'aime pas trop le mot économie, parce que ce n'est pas que de l'économie. Mais l'Europe en est un exemple, mais d'autres ailleurs en seraient le cas, c'est-à-dire des sociétés où le niveau supérieur existe, unifie ce qu'on peut appeler cette civilisation. C'est un niveau culturel, souvent cultuel. Par exemple, l'Europe, c'est la chrétienté latine. Mais c'est un niveau économique. Le plus souvent, il y a une unifique via des réseaux de villes, de marchands. Mais ce n'est pas un niveau d'État. Ce n'est pas un niveau politique. Et au contraire, on est dans un monde polycentrique en Europe, ça serait vrai dans d'autres exemples, mais c'est l'Europe qui va, par sa position excentrique, protégée, va le faire perdurer le plus longtemps. Où il y a une multitude de sous-ensembles qu'on va appeler des États qui vont apparaître et être un concert des nations. Et dans ce monde polycentrique, eh bien, vont entre autres s'identifier des petits ensembles, des villes-États, des cités-États qui vont éviter justement les gros États qui créent des règlements, des taxes, etc., des contrôles, c'est-à-dire des lieux où les marchands vont être maîtres chez eux, ce qui n'est pas possible dans un empire, même s'il peut y avoir des catégories marchandes importantes, mais leur autonomisation dans des lieux qui leur sont propres. Et si je parle d'une chose aussi petite, aussi minuscule, que je ne pourrais pas représenter sur un planisphère, c'est parce que ces cités-États, les villes italiennes, les villes flamandes, tout l'axe qui les relie et qui est l'origine de notre mégalopole européenne, eh bien, dans ces lieux minuscules où les marchands sont maîtres chez eux, c'est là que s'inventent des types de techniques économiques qui vont, capitalisme pour aller vite, qui vont à leur tour, au moment où l'Europe explose, se répand, eh bien, être justement ce qui va être le facteur de la mondialisation. Et là, on comprend mieux la dissymétrie entre les grandes découvertes chinoises et les grandes découvertes européennes. Ce que faisait un État, par curiosité et pour quelques considérations géopolitiques, ce n'était pas la même chose que ce que faisaient des marchands, même si ils le faisaient en complicité et en rivalité avec certains États, pour aller chercher des produits et pour gagner du sou. Donc, vous avez là un élément tout à fait important. Or, si j'évoque ces choses-là, ce n'est pas pour le plaisir de faire une histoire de cette mondialisation et de voir qu'il y a des lieux plutôt que d'autres. C'est parce que ça nous laisse des héritages aujourd'hui. Et j'en évoquerai qu'un seul en fin de cette dernière partie. C'est que la mondialisation, c'est aussi l'anti-mondialisation, c'est aussi la résistance. Et plus on est capable de résister, plus d'une certaine manière, on tient compte du monde. Or, résister au monde, ça a été une aventure du XXe siècle qui a disparu avec la chute de l'Union soviétique, qui était de créer une alternative, une autre mondialisation. Il y avait le XXe siècle, on avait deux en théorie, puisque l'Union soviétique finalement n'a pas été une mondialisation, mais il y avait une internationale. Il y avait deux éléments en concurrence, ça s'est même appelé la guerre froide. Or, pour résister au monde, pour tenir ce niveau mondial à distance, il faut du poids, du territoire, des hommes, des richesses, et le tout dans un héritage cohérent, induré. C'est un héritage impérial. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si c'est un des grands empires qui était un empire en partie européen, l'empire russe, qui a permis de construire ce lieu de résistance à ce niveau mondial, en tentant d'en créer un autre, pendant une bonne partie du XXe siècle. Et ce que je dis pour l'héritage de l'empire russe pourrait se dire aussi pour l'héritage de l'empire chinois. Donc, vous avez des localisations, des rapports au monde qui ne sont pas du tout innocents. C'est l'inverse de la cité-État de Singapour, ce que je vous raconte. Hein. Vous avez des types de positions qui dépendent de ces héritages éventuellement très anciens qui eux-mêmes s'expliquent, peuvent s'expliquer, bien sûr. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça, mais je le dis très vite en plus. Mais s'expliquent les uns par rapport aux autres. Alors, j'ai à peu près terminé mon temps. Donc, je conclue en deux mots. Eh bien, je dirais d'abord que penser le monde, c'est ma question finale, peut-on le penser ? Penser le monde, c'est vraiment très très difficile. Parce que penser le monde, ça veut dire s'en donner une image, le représenter. Quand on parle de la mondialisation, je n'ai pas le temps de donner des exemples, mais on représente toujours un planisphère ou un globe. Mondialisation, c'est effectivement l'image du monde. Or, je vous ai dit tout à l'heure combien c'était difficile, mais entre autres, maintenant, parce que tout ce que je vous ai montré, que sur écran, c'est pareil, c'est plat. Or, depuis finalement pas très longtemps, le monde n'est plus plat. La Terre a toujours été ronde, et vous le savez. Mais le monde pouvait être pensé comme plat quand il avait des limites, des extrêmes, des bords au milieu du Pacifique. Or, depuis les années 80, depuis que les échanges transpacifiques font à peu près jeu égal, depuis qu'on a fait des fantasmes d'ailleurs sur le Pacifique, nouveau centre du monde, font à peu près jeu égal avec ceux qui traversent l'Atlantique, le monde est circulaire. J'aime bien appeler ça les 3-8. C'est-à-dire, c'est ce que symbolise la bourse. Hein. Tokyo, Londres, New York, il y en a toujours une qui fonctionne, et ça fait le tour du monde. Il faut trois lieux qui soient bien répartis hein, pour avoir ça. Donc, le monde est rond, et c'est très difficile de le représenter. Mais en plus, on a vu que c'était des jeux de niveau d'échelle. Et ça, c'est très difficile de le faire sur une carte. Avec des variations de distance, je reviens à mon premier point, qui sont complexes. Or, si c'est difficile de le représenter, et c'est un enjeu pour l'université de tous les savoirs, c'est encore plus difficile de s'affranchir de l'ensemble des héritages de la pensée. Là, ça rejoint plutôt des thèmes de la précédent ensemble de conférences. Les Européens ont non seulement donné leur vision du monde, mais le découpage de tous les savoirs, c'est un découpage européen, opposer l'économique au social, la nature à la société, c'est hérité de l'Europe. Ce qui veut dire que le monde est particulier. Le niveau mondial, c'est pour ça que j'employais avec un nom propre, comme une majuscule, en introduction. C'est un monde unique, particulier, avec cet héritage européen ou occidental, si vous préférez. Et pour passer à tous les savoirs, c'est passer du mondial à l'universel. Et ça, c'est un sacré enjeu pour l'université de tous les savoirs. Je vous remercie.
Merci Christian Gratalou. Demain, ce module « L'homme, ses milieux et ses territoires » s'achèvera avec la conférence de Michel Grésillon intitulée « Les repères, identité, réseau, territoire, les paysages et la diversité culturelle ». Maintenant, nous allons passer au traditionnel jeu des questions. Merci de les poser aussi brèves et claires que possible.
Bonjour, c'était très passionnant. Quand on voit l'Afrique, on a l'impression d'un immense vide. Et par rapport à le peuplement de l'Afrique, par rapport aux localisations de savoir ou de culture, par rapport à la tâche énorme que produit l'ancienneté de l'origine, et quel est le devenir de... Enfin, excusez-moi, je ne m'exprime pas très bien, mais vous voyez... Si l'Afrique est notre berceau, donc c'était tout noir à cet endroit-là, que pensez-vous que va devenir l'Afrique ?
Oui, elle est mal partie, c'est bien connu. L'Afrique s'est trouvée régulièrement marginalisée dans tous les réseaux les plus anciens. Alors évidemment, si on remonte il y a 3 millions d'années, c'est tout autre chose. Mais dans cet axe, celui que représentaient les lieux d'histoire dont je parlais il y a un instant, dans cet axe, les réseaux africains sont branchés sur ces axes. Il y a les grands empires, cette petite tache qui se trouve ici, les Sonrai, le Mali, et ils sont branchés. C'est aussi un terminus occidental, mais un terminus qui subit une discontinuité qui est celle du Sahara. Et ça, c'est beaucoup plus important que les océans. Ce qui fait que ces réseaux vont être étiolés à mesure qu'il y a désertification du Sahara, en même temps que les Européens vont venir opérer une ponction sur les côtes. Alors, 500 ans d'héritage de ce type-là, il faudra un certain temps pour le modifier.
Ma question, c'est pas du tout celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Heureusement, ça. Bon, mais moi, ça m'a fait penser à une chose. Est-ce qu'on pourrait pas envisager une future construction du monde, voire l'Europe, l'été. Bon, je prendrai l'image. L'entrée et le dessert, c'est l'Europe du Sud. Le plat de résistance avec les légumes, c'est l'Europe du Nord. Bon, au niveau mondial, on pourrait peut-être penser à ça. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour faire des découpages cohérents pour l'humanité, c'est peut-être une solution.
Oui, je vous influençais avec le rythme des repas. Je crois que derrière, il y a un enjeu considérable qui est celui de l'idée, peut-il y avoir, et par ailleurs, mais là je restais un scientifique, donc je ne le dirai pas exactement, je ne répondrai pas à cette question, doit-il y avoir une société mondiale. Peut-on parler aujourd'hui d'un niveau mondial qui n'est pas seulement un niveau d'échange, de relations, comme il en existait dans l'ancien monde, entre la Chine et l'Empire romain, mais aussi de quelque chose qui est une construction, une société mondiale. Dans les faits, il y a une multitude de régulations mondiales, d'instances de décision mondiales, de prises de décision, non seulement privées, des grandes entreprises ou des ONG, et d'autre part publiques, par l'intermédiaire d'organisations, mais qui restent pour le moment du domaine de l'international. Et le grand enjeu, il est entre le mondial et l'international. La tension entre les États que symbolise l'Assemblée de l'ONU et puis les enjeux mondiaux, en particulier les enjeux environnementaux, dont je n'ai pas parlé, ce n'est pas directement mon sujet, mais qui sont évidemment très brûlants, très forts, Kyoto, les conférences de Kyoto, de Rio, et qui sont effectivement des enjeux pour tous et qui sont en contradiction totale avec l'international. Alors, de ce fait, les disparités qu'il y a dans le monde, les diversités, effectivement, c'est un enjeu mondial où il s'agirait un peu de mélanger les plats, dans ce qu'on pouvait supposer ou espérer, par non seulement de modestes transferts, mais des pratiques qui sont peut-être pas perdantes. Le niveau mondial n'est peut-être pas un inconvénient pour les plus pauvres, contrairement à ce qu'on pense souvent.
Oui, je voudrais vous demander... Dans ce contexte-là, est-ce que l'agriculture date de 11 000 ans ou bien 4 000 ans ? Parce qu'il y a un colloque à Paris en ce moment, on parle de 11 000.
Oui.
Alors, deuxième question aussi, quelle est la différence employée par les Européens, surtout du Sud, puisque dans le Nord, ce n'est pas pareil, entre la mondialisation et la globalisation qu'emploient les anglo-saxons.
Bon, je réponds à la dernière question. D'abord, globalisation, c'est simplement un anglicisme. D'ailleurs, remarquez que je ne l'ai pas utilisé. Globalisation, c'est mondialisation. Alors, on l'utilise souvent en français uniquement pour dire mondialisation financière. Souvent, on ne met plus l'adjectif, d'ailleurs, derrière. Mais disons mondial, ça me semble plus précis et plus correct que global. Donc, j'ai évité ce point. Et merci de l'avoir soulevé, ce point qui me semble effectivement important dans l'usage du vocabulaire. Alors, par ailleurs, pour la date du néolithique, vous avez raison, c'était un élément clé. Hein. 11 000 ans, oui, c'est les premières formes d'agriculture, les premières semences, les premières formes de domestication au-delà du chien, qui est certainement plus ancien, c'est 11 000 ans. Et c'est partout dans le monde. Je n'ai pas amené de cartes, parce qu'on n'a pas le temps, mais de cartes du néolithique, qui est un élément clé pour comprendre le monde contemporain. Le néolithique se produit juste après la glaciation, non seulement en Extrême-Orient, mais au Proche-Orient, mais aussi en Amérique. Alors vous avez des lieux où on va inventer l'agriculture assez rapidement. Ce qui compte ensuite, c'est qu'à partir de ces foyers, certains vont devenir des lieux essentiel de construction de niveaux de plus en plus grands jusqu'à devenir un ancien monde, et d'autres vont rester modestes. Et c'est là où le fait d'être central ou en marge est absolument essentiel. Et dans le centre, le croissant fertile, pour ne pas employer le terme subjectif européen de Proche-Orient, eh bien, ou le Mashrek pour employer une autre subjectivité de civilisation, eh bien, le croissant fertile, c'est là où non seulement on a inventé anciennement de l'agriculture, mais ensuite on invente la ville, puis l'État, l'écriture. Vous avez une série d'associations qui sont cumulatives et qui sont bien dans cette position centrale dans l'ancien monde que j'ai évoqué.
Question de monsieur.
Oui, tout à l'heure, vous avez superposé les pays pauvres et les pays chauds pour montrer qu'il y avait une certaine concordance. Vous avez dit que c'était un sujet un peu politiquement incorrect.
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi c'est un politiquement incorrect, et ensuite m'expliquer pourquoi ces deux caractéristiques se superposent. Et à mon avis, il y a plusieurs explications à deuxième superposition.
Oui, c'était. Je l'ai fait en sachant que c'est provocant, hein, et que ce n'est pas quelque chose qu'en général, on accepte volontiers. La meilleure façon, d'ailleurs, généralement, c'est de le nier, hein, de dire que ce n'est pas si simple. Je l'ai pris d'ailleurs à un moment donné en vous disant que c'est au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a Singapour, enfin, les choses ne sont pas si simples. Elles ne l'ont jamais, d'ailleurs, la limite n'a non plus jamais été aussi nette. Ça pose des problèmes par rapport à la Chine, hein, par exemple. Mais malgré tout, il y a une coïncidence qui est assez forte et qu'en général, on n'aime pas. On n'aime pas parce que le plus souvent, et c'est une opinion très partagée, mais pas dans les milieux qui s'expriment le plus, les milieux savants, si vous voulez, qui consiste à dire, mais, tout simplement, les milieux chauds ont des inconvénients par eux-mêmes. Ils sont facteurs de maladies, de l'atterrissage des sols, il y a des typhons, des catastrophes, etc. C'est ce qu'on appelle du déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a un facteur naturel qui explique un facteur social. Et en général, quand on fait une réflexion sur les sociétés, on n'aime pas ça. Donc, en général, on l'élimine. Mais comme on ne sait pas très bien le remplacer par autre chose, finalement, on nie le phénomène. Alors, ce que j'ai évoqué, c'était évidemment qu'un facteur parmi d'autres, mais c'est une construction historique. C'est-à-dire qu'avant que les Européens s'intéressent à construire des réseaux mondiaux, il n'y a pas d'inégalité entre des régions qu'on peut construire zonalement, par des différences climatiques. Il y a des civilisations qui ont des régions chaudes, des régions froides, c'est le cas un peu de la Chine, qui vont créer des échanges internes ou qui vont développer des échanges avec d'autres types de sociétés. Mais les Européens vont privilégier pendant quelques temps, et ce de manière durable, et le plus près d'abord de chez eux avant que ce soit plus loin, je l'ai dit un peu vite, c'est vrai, la relation avec des lieux dont ils vont se saisir, dont ils vont s'emparer, et qui sont presque exclusivement des régions chaudes qui les intéressent, sauf s'il y a des mines d'or et d'argent. Voilà. Alors là, ça laisse une marque considérable, ce que j'ai résumé d'un mot rapide d'extraversion. Alors, c'est-à-dire que c'est pas une colonisation qui est un élément clé, parce qu'ils ont colonisé ultérieurement aussi des régions tempérées, mais ça n'a pas laissé en Australie ou au Chili ou au Canada, ça n'a pas laissé le même héritage. Tandis que dans des régions intertropicales, pour aller vite, eh bien, vous avez cette marque qui ensuite perdure par les échanges mondiaux de ces types de spécialisation. Alors c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, c'est une grille de lecture que je propose. Mais ça me semble un vaste problème qu'en général on cherche à éviter. De ce fait, je n'ai fait aucun déterminisme naturaliste, j'ai essayé de montrer comment des différences naturelles étaient utilisées par des sociétés et créaient ainsi de l'inégalité. Ah non, je n'ai pas utilisé, moi j'en ai pas besoin. Non, non, je ne vais pas utiliser le déterminisme naturaliste. Je ne crois pas que les tropiques soient plus de bonne espérance, pour employer la belle formule de Pierre Gourou, ou de mauvaise espérance, peu importe. Il n'y a pas en soi de milieu, il y a des milieux très froids ou très secs qui posent problème, mais je ne pense pas que les grandes régions du nord de l'Inde ou du sud de la Chine posent en soi des problèmes pour les civilisations. Elles ont au contraire été de grands lieux de civilisation. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, hein, de ce point de vue-là. Mais la situation de l'Afrique, pour évoquer la question qui a été posée tout à l'heure, c'est plutôt lié, non pas du tout à des conditions naturelles, mais à un héritage de ces constructions du monde, progressivement, avec des caractéristiques particulières. Mais si je l'ai cité, c'est parce que je pense que le monde se serait construit beaucoup plus lentement si les Européens n'avaient pas eu besoin d'aller chercher des régions qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas.
Question, madame.
Oui. Je crois que
bonjour Colette.
Bonjour. Je crois que comme beaucoup de personnes de l'auditoire, j'ai beaucoup apprécié ce passage de la mondialisation à l'universel qui replace l'homme finalement au cœur de la question. Ça m'a beaucoup intéressée et ça m'a interrogée parce que j'ai la sensation, je vais te tutoyer, j'ai la sensation que la mondialisation, tu l'as présentée au travers de critères et d'indicateurs essentiellement économiques, alors que dans toute une partie de la conférence, on a bien compris que la construction d'un État, la construction d'une organisation administrative ou peut-être des aspects cultuels pouvaient aussi conduire à ces aspects de la mondialisation. Donc, je m'interroge sur la place de ces indicateurs dans la construction d'un monde, d'un monde avec une majuscule. Et l'autre question que je me pose, l'autre interrogation que j'ai, c'est que j'étais étonnée, j'ai bien compris qu'on entendait européen au sens global, au sens civilisation, mais j'ai quand même été un peu étonnée de ne pas entendre plus parler de l'Amérique au moment où on construit un monde. Si l'indicateur est économique, où les États-Unis, me semble-t-il, ont une place fort importante. Autre remarque, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque, pardon, c'est que ça m'a posé question, cette démonstration autour de l'heure Asie-Afrique, et puis l'isolement de ces États-Unis, enfin de l'Amérique.
Qui, avant.
Avant, oui. Mais qui, justement, de bordure devient centrale.
Alors, d'abord, j'espérais avoir le temps, je n'ai pas fait, de parler de la place des États-Unis. Donc, tu relèves effectivement un manque, mais je l'ai sacrifié. À partir d'un paradoxe très simple, c'est qu'aujourd'hui, où les dirigeants de la Corée, des deux Corées se rencontrent, j'aurais tendance à dire, dans une certaine mesure, la Corée du Nord est plus mondialisée que les États-Unis. Les États-Unis, dans une certaine mesure, bien sûr, jouent un rôle dans le monde, mais sont capables de le tenir à la distance quand ça les arrange. On dit souvent même que le monde est le backyard, l'arrière-cour des États-Unis, et que c'est les États-Unis qu'ils considèrent comme une région d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont capables de jouer, ils influencent les autres, mais sans forcément être influencés par eux. Ça serait vrai dans le cinéma, pour prendre des choses non économiques, où il y a beaucoup d'éléments culturels. Inversement, la Corée du Nord, elle s'est arc-boutée jusqu'à faire crever de faim sa population pour tenir le monde à distance, avec un régime fou, évidemment, mais elle l'a fait en beaucoup plus encore que l'Union soviétique, en se ruinant, en essayant de tenir cette résistance. Et ça, cette anti-mondialisation, c'est une forme de mondialisation. Alors, j'arrête sur ce point, parce que les États-Unis, effectivement, c'est élément central, mais la mondialisation, bien sûr, si je l'ai entendu, si on l'a compris sur le plan économique, c'est peut-être, j'espère, moins à cause de mes propos que parce que c'est ce qu'on entend par mondialisation d'habitude, en dehors de cet amphithéâtre. En fait, la mondialisation, c'est tout autant de la musique, de la nourriture, des vêtements, et de ce point de vue-là, l'européanisation est tout à fait manifeste. Quand je dis de la nourriture, c'est plus les rythmes des repas, d'ailleurs, que les contenus. On peut mettre du couscous ou des sushis, dans la mesure où on met un dessert après et que c'est à une certaine heure, c'est dans les logiques de ce que les Européens ont diffusé. Donc la mondialisation, effectivement, c'est particulier, c'est spécifique. Et le problème, je suis content que tu l'aies relevé, c'est bien de passer du mondial avec ses héritages particuliers à l'universel qui permet de respecter toutes les spécificités, tout en ayant un moyen de les penser toutes. Et ça, c'est un sacré enjeu.
Je vous remercie.
Merci. Je vais l'enlever.